Comment as-tu eu le courage de te trancher la gorge avec une tronçonneuse ? Je l'écris noir sur blanc. Je repasse. Comment as-tu eu le courage de te trancher la gorge avec une tronçonneuse ? Je plonge dans ta conscience. Je suis certain, oui, certain, que dans ton élan, à un moment, putain, à un moment, tu as bien dû te dire « je suis en train de déconner là ». Je suis certain, putain, certain qu'à un moment, tu t'es toi-même posé la question de savoir si tu allais le faire. Je suis certain, putain, certain que tout ça ne tient à rien. Une chaîne de toutes petites choses qui, mises bout à bout dans leur rotation, finissent par entraîner un désastre. Voilà, chaque élément de ta vie tout à coup fixé autour d'un axe fou, comme la chaîne de ta tronçonneuse tournant à vide. Trop proche à un moment donné, de ta peau. Tu as approché trop près ta peau des éléments de ta vie fixés autour d'une machine infernale. Tu t'es laissé entraîner par la chaîne des éléments de ta vie tournant à vide. Pourtant, d'ordinaire, ce qui tourne sur lui-même provoque une force centrifuge qui a pour effet d'écarter ce qui l'environne. Nos vies qui tournent à vide, nous nous en éloignons naturellement. Nous n'allons pas pencher sur elles nos têtes, regarder dans l'œil des cyclones. À quoi bon ? Ces phrases, signées Baptiste Amann, sont extraites de « Rapport sur toi », de « Mon chaos est née une étoile filante », pièce écrite pour le spectacle de fin d'études de la promotion d'acteurs sortie en 2019 des classes de la comédie. Nous aurions dû rejouer ce spectacle le 7 novembre dernier à Reims. Malgré l'annulation de la représentation, nous nous sommes quand même retrouvés pour répéter à la comédie. D'abord pour préparer les dates de tournée, mais aussi parce que le travail sur ce texte représente pour toute l'équipe un rendez-vous qui donne de la force, de l'espoir, de la chaleur. Le geste d'écriture de la pièce trouve pourtant son origine dans la sidération qu'a provoqué un suicide, dont la violence terrible de la mise en scène paraît insupportable. Quand Baptiste m'a remis le texte et que j'ai commencé à lire les premières lignes, j'ai eu peur. Je connaissais cet événement et la déflagration qu'il avait engendré. Je me suis dit, oh là là, est-ce que c'est vraiment le cadre pour parler de ça ? Est-ce qu'on peut mettre cette histoire sur les épaules d'une bande de jeunes de 20 ans ? Mais au fur et à mesure que j'avançais dans le prologue, j'ai été stupéfait de voir que Baptiste avait trouvé les mots pour mettre son récit en partage, pour que nous puissions raconter cette histoire tous ensemble, et en pleurer et en rire ensemble sans se sentir impudique, et poser des mots sur le vide et le sentiment de solitude que connaissent ceux qui perdent brutalement un être cher. Quand l'équipe de la comédie m'a proposé de produire un petit document sonore qui pourrait rendre compte de ce qui se joue dans Rapport sur toi, j'ai eu envie d'évoquer ça. Cette façon dont l'écriture, entre le cri de douleur et l'éclair de lucidité, représente parfois une arme irremplaçable pour résister à la blessure de la mort, de la disparition, à ce qui nous aspire vers les ténèbres. À travers la sélection de certains extraits qui me bouleversent, issus de pièces inédites de Baptiste et peut-être d'autres auteurs, on verra, j'ai eu envie de témoigner du choc lumineux qui nous saisit quand on s'aperçoit que les mots, poussés dans leur retranchement, ont réussi à préserver l'élan de vie au moment où un deuil semblait insurmontable. Je propose de commencer avec le prologue de Rapport sur toi, qui est à mon sens l'un des plus beaux textes de Baptiste. Une sorte de manifeste poétique qui évoque son impérieuse nécessité de fiction, qui entretient chez lui un dialogue toujours complexe et joueur avec le réel, et son amour pour les acteurs, dont le geste d'incarnation est un prolongement indispensable de l'écriture.
Le matin du 5 janvier 2018, à Valensole, dans le sud de la France, tu offrais le café à tes collègues de travail avant d'attaquer la journée.
Tu avais l'air de bonne humeur. Ton patron venait de t'apprendre la validation du financement de ta formation de cordiste.
Tu attendais ça depuis plusieurs mois.
Tu les as réunis ensuite à l'extérieur du site, leur précisant que tu avais quelque chose à leur montrer.
Disposé en arc de cercle, tu te tins devant eux. Ton outil de travail à la main, une tronçonneuse thermique verte fluo de 6 kg 300 grammes.
Tu les regardas un à un, avec un air de défi.
Tu leur dis « Regardez de quoi je suis capable ».
Tu allumas l'engin d'un geste vif
et te trancha la gorge.
Nous nous connaissions depuis toujours, depuis des siècles semble-t-il. Nous avions grandi côte à côte. Tu étais, pour ainsi dire, mon meilleur ami.
Ta mort est ton mystère. Sa violence, un trou noir. Les psychiatres ont un nom. Raptus. Le raptus est un désir soudain et impérieux d'accomplir un acte violent. En latin, raptus, c'est ravissement.
Ravissement.
Si je devais aujourd'hui faire un rapport sur toi, je ne parlerais pas. Je veux dire, je ne voudrais pas de mon corps pour raconter cette histoire-là. Ni du tien, d'ailleurs. Je ne voudrais pas de nos vies emmêlées, exposées sans pudeur sur un plateau de théâtre. Je voudrais dissoudre mon nom dans d'autres noms, ton histoire dans d'autres histoires, nos corps dans d'autres corps.
Si je devais faire un rapport sur toi, je devrais faire appel à de jeunes acteurs, nés à la fin des années 90, c'est-à-dire au moment où nous formulions nos promesses d'avenir et nos pactes sioux. Je devrais donc m'appeler...
Alan.
Anne-Marie.
Arthur.
Danae.
Léa.
Lucie.
Joséphine.
Valentin.
Max.
Rosine.
Être né le...
26 juin 1998.
6 octobre 1999.
21 mars 2000.
30 juin 1999.
3 août 1997.
28 décembre 1995.
29 septembre 2000.
15 juillet 1999.
12 mars 1999.
26 mars 1996.
Dans la ville de...
Charleville-Mézières.
Traunstein.
Paris 12e.
Reims.
Saint-Dizier.
Reims.
Paris 12e.
Manosque.
Strasbourg.
Reims. Si je devais faire un rapport sur toi, je serais ce nous. Et je voudrais que ce rapport intervienne dans le cadre de notre sortie d'école. Que ce rapport prenne la forme d'une pièce de théâtre qui aurait été écrite pour nous et que nous jouerions, comme s'il s'agissait de notre propre vie. Je voudrais que nous devenions cette communauté fictive, ce groupe d'amis d'enfance, liés depuis toujours, réunis autour de la perte de l'un des nôtres.
Nous situerions la scène dans l'ancien vestiaire d'une piscine désaffectée, lieu de réunion habituel de notre bande imaginaire. Dans le village imaginaire où nous vivons. Pas nécessairement pour que les scènes s'y déroulent en réalité, mais pour que nous habitions pour de vrai cet espace commun de l'enfance. Notre fiction d'enfance réhabitée, relogée.
Redistribuée, oui. Cela se passerait comme ça, dans un vestiaire. Nous serions l'année du bac. Voilà. Un groupe de lycéens, l'année du bac, réunis dans l'ancien vestiaire d'une piscine désaffectée.
Si je devais faire un rapport sur toi, j'éviterais surtout que cela soit glauque et froid, comme les monuments en marbre, les hommages rendus aux morts, les cérémonies conventionnelles, l'esprit de sérieux, les prières à genoux, les valses tristes, les rituels morbides, les confessions obscènes, les arbres nus et les sourires de gêne.
J'écrirais plutôt, ou du moins j'essaierais, un poème tragique et joyeux, comme une fête foraine à l'abandon.
On pourrait dire une équation mathématique résolue au hasard par des enfants.
Un concept métaphysique, élaboré dans l'urgence par un concile d'analphabètes.
Une tentative de ravissement maladroit de l'amour sur le désespoir.
Un désir impérieux et soudain d'accomplir un acte de joie.
Un raptus inversé.
Je le diviserai en 12 tableaux. Les 12 stations d'un chemin de croix emprunté à l'envers. Les 12 mois d'une année de deuil.
Il y aurait de la musique. Des succès commerciaux qu'on écouterait sans honte.
On parlerait d'une langue mouvante qui serait la nôtre. Toujours libre, jamais tranquille.
Ce serait Contre le vent. Une ode à la vie minuscule.
Qui continue.
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 seul à crever. La vie qui continue dans Rapport sur toi, ce sont des moments de dialogue collectif entre ces bandes de potes qu'on voit organiser la répartition des affaires de leur ami disparu, qu'on voit réviser pour le bac, qu'on voit fêter la fin des cours ou s'amuser à inventer des jeux de mots débiles pour que le silence ne prenne pas toute la place. Mais si on veut que la vie continue réellement, il faut aussi l'arrêter dans des scènes hors du temps où on a besoin de parler autrement que dans la réalité, où les personnages poussent la langue au bord du vide pour essayer de tarir le sentiment de colère profonde qui prend parfois le dessus sur la sensation d'abattement. C'est le cas dans le duo qui va suivre. Dit par une sœur et son frère qui ouvrent une parenthèse rageuse et interpellent leur ami disparu. L'écriture va puiser dans un lyrisme chaotique pour racler des zones encore inexplorées de leur chagrin. Un tourbillon d'images désolées. Il y en a presque trop. Ça sature. Comme le prologue, ce texte a été enregistré après un filage. Les acteurs se sont rapidement rassemblés autour d'un micro et ont essayé de retraverser simplement le texte avec leur voix fatiguée. Ici, c'est Joséphine et Valentin qu'on entend.
C'est vrai, on te l'accorde, tout ça c'est insupportable.
Que tout ait un nom.
Un nombre.
Une forme.
Et qu'il y ait des lois pour tout régenter.
Et qu'il y ait une histoire en héritage.
Et qu'il y ait ce corps-là et toutes ses limites.
Oui, ce n'est pas supportable.
Ce n'est pas suffisant.
On est bien d'accord. Et qu'il y ait ce Dieu-là ou l'absence de Dieu.
Et qu'il y ait cet espoir-ci ou l'absence d'espoir.
Et qu'il y ait des conjugaisons et des grammaires.
Et qu'il n'y ait que ces deux yeux-là.
Et qu'il n'y ait que cette langue-là à l'intérieur de cette bouche-là.
Et qu'il n'y ait que ces deux bras-là rattachés à ce tronc-là.
Que pour ces jambes-là, il n'y ait que ces deux pieds-là.
Et qu'il n'y ait que ce monde-là.
Et que là, il n'y ait pas là-bas.
Et que là-bas soit si loin de là.
Et qu'il n'y ait que ce qui est là.
Qu'après tout, il n'y ait que ce qui est là.
On est bien d'accord.
C'est insupportable.
Mais va te faire foutre.
Va te faire foutre.
Parce que, par beau temps, toi et nous et nos 15 ans, c'était 150 kilos d'innocence renversés sur l'herbe pour contempler la forme des nuages.
Par beau temps, rien ne s'épuisait.
Et toutes les secondes.
Et toutes les minutes.
Et toutes les heures comptaient. Par beau temps, toi et nous et nos 15 ans, c'était la vie devant.
Toujours devant.
Et nous derrière, lancés à sa poursuite.
Par beau temps.
Jamais le souffle court, mais l'existence chaque fois renouvelée en paquets de salive au fond du gosier.
Par beau temps, vivre, c'était l'endurance.
C'était ce qu'il y avait à endurer.
Ce qu'il y avait de dur.
Ce qu'il y avait de durer.
Et tenir, par beau temps, c'était debout, c'était sur ses pieds, c'était sur le sol, c'était vertical, car il n'y avait que ça pour être vu, pour être retrouvé.
Alors va te faire foutre.
Va te faire foutre.
Quand il n'y a plus que son cœur à soi pour battre le rythme d'une vie commune.
Quand il n'y a plus rien autour que la mort qui rabat les volets.
Que les verrous qui claquent.
Que les pas qui s'éloignent.
Que les lumières qui s'éteignent.
Avec dans la tête tout le dehors qui s'imagine. Ces hommes et ces femmes en chemin, ces transactions permanentes. Ces animaux sauvages, ces glissements de terrain. Cette vitesse du monde extérieur en mouvement quand tout ici est immobile.
Eh bien les eaux se glacent.
Ils glacent, les eaux. Et se mettent à craquer.
Comme le pont d'un navire piégé par la banquise.
On les entend craquer, parce qu'il fait silence, mais seulement dedans où nous sommes enfermés.
Car, dehors, tout braille encore.
Tout est libre encore.
Un fossé se creuse entre le dedans et le dehors.
Et on se dit,
tout est foutu. Il n'y a plus que nous pour entendre.
Il n'y a plus que nous pour comprendre la charpente en train de s'effondrer.
Trop de silence à l'intérieur et trop de bruit dehors.
Et nous voilà.
Nous vivons.
Aussi seuls que toi. Mort. Alors va te faire foutre.
Va te faire foutre.
Parce que nous tenons à toi qui nous tient.
Et que pour éviter le naufrage, nous étendons vers toi nos bras depuis toujours, comme deux landes de terre en friche, au bout desquelles s'accroche un phare, à l'abandon, avalé par les tempêtes, repère déchu pour marins déjà noyés. Voilà rendu à l'état de vestige.
Fixé pour l'éternité dans notre tentative désespérée de sauvetage.
Trop tard.
Déjà la mer est montée.
Déjà le phare est sous l'eau.
Les landes de terre submergées par la houle.
Ne reste qu'un horizon morne de ciel et de mer mêlés.
Tu es parti de nous.
Tu as déposé au fond de nos poches le souvenir de tes yeux tristes. Et nous voilà condamnés à déchiffrer avec la peau du pouce la lettre d'adieu inscrite en braille sur ta rétine.
Trop tard.
Ne reste que le silence.
Toujours le silence.
Entre nous.
Le silence.
Alors va te faire foutre.
Va te faire foutre.
Nous aurions pu réapprendre à nous mettre sur nos pattes.
À pousser sur nos appuis.
À contraindre la gravité.
À nous déployer.
Épaule contre épaule, nous redresser comme des nouveau-nés solidaires.
Et nous aurions pu réapprendre à marcher.
Lentement.
À suivre n'importe quel chemin pourvu qu'il nous mette en route.
Qu'il nous fasse avancer.
Avancer malgré nous.
Avancer malgré tout.
Sans rien préméditer, mettre un pied devant l'autre.
Ni plus, ni moins.
Sans rien attendre de nos expériences passées.
Inventer à nouveau le monde.
Pas après pas.
Inventer à nouveau l'espace.
Et quand enfin nos forces revenues, nous aurions eu le désir de rattraper le temps perdu, nous aurions pu alors réapprendre à courir.
lancé à la poursuite de la vie avec dans les chaussures nos 15 ans retrouvés.
Et bientôt courir à perdre haleine.
À perdre un poumon puis l'autre.
À perdre le nord.
À courir de plus belle.
Frénétiquement attaché à trouver enfin l'issue.
À trouver enfin l'issue.
À trouver enfin l'issue.
Alors.
Va te faire foutre.
Va te faire foutre.
Depuis le premier volet de la trilogie Des Territoires, qui met en scène les retrouvailles d'une fratrie réunie de force par la disparition de leurs parents, tués dans un accident de voiture, la mort traverse les pièces de Baptiste. Elle en pose le cadre. À la fois comme enjeu métaphysique qui met les vivants au défi de parler de ce qui ne se nomme pas, mais aussi comme exigence de se rassembler et d'apprendre à se mettre d'accord autour de responsabilités concrètes, comme l'organisation d'une cérémonie funèbre ou la gestion d'un héritage. La plupart du temps, il ne s'agit pas de mort naturelle. Confronté à la brutalité et à l'injustice de ces disparitions, personnages et écritures sont sous pression. Parfois, la violence qui explose fait qu'on ne passe pas très loin du meurtre. Au moins, veut-on tuer par le langage, comme dans cet extrait de L'Auto, pièce inédite commandée par la Comédie de Colmar, dans lequel une jeune femme cinéaste a besoin, en imagination, de tuer son père adoptif, présentateur de L'Auto, vedette des salles des fêtes alsaciennes, pour pouvoir dire à quel point elle l'aime.
Mon père est un héros. Combien d'années une petite fille peut penser ça de son père avant d'être déçue? Oui, mais voilà, mon père est un héros. Et les héros, c'est bien connu, on peut pas les aimer. Non, on peut pas. C'est pas vrai. On peut pas, c'est tout. Ils nous écrasent. On leur doit trop. Dans Nos Amours, le film de Piala, il y a une réplique que j'adore et qui dit à peu près ça. Je crois que les êtres qu'on aime le plus, on ne peut vraiment les aimer qu'une fois morts. Oui, je sais, c'est toujours un peu pompeux de lâcher une citation en passant l'air de rien. Mon père déteste. Il dit que je me la raconte quand je fais ça. Peut-être, mais celle-là, je la trouve parfaite. Je pense que pour éprouver totalement l'amour que j'ai pour mon père, il faudra que j'attende sa mort. Et parfois, il m'arrive d'espérer qu'il meure pour que cet amour m'envahisse et que ma colère s'éteigne. Oui. Je voudrais que mon père meure, non pas parce que je le déteste. Je voudrais qu'il meure parce que je l'aime. J'ai cru que m'éloigner le ferait mourir un peu, mais ça n'a fait que nourrir ma culpabilité et donc mon ressentiment. Oh, je sais de quoi j'ai l'air. Surtout auprès de ceux qui ont déjà perdu leur père, mais là encore, pardon, mais de quoi on parle? Vous m'avez bien regardé? Et lui? Croyez-moi, rapport à la perte, je n'ai de leçons à recevoir de personne, alors je dis tout ça sans aucun état d'âme. Komasi. Ce nom évoque quelque chose à quelqu'un? Non? Oh, bah c'est pas grand-chose. Un petit village d'à peine 2 millions d'habitants, situé dans la région d'Ashanti, au Ghana. C'est là-bas que je suis née. On se fout de la gueule des Américains qui savent pas placer les pays d'Europe sur la carte, mais vous, sauriez-vous placer le Ghana au bon endroit? Le Libéria, le Gabon, le Botswana, la Zambie. Pardon, je suis un peu sur les nerfs, vous n'y êtes pour rien. Et puis moi non plus, je saurais pas. J'ai jamais remis les pieds en Afrique. Je connais du Ghana que le nom des villes a pris par cœur. Accra, Gouazou, Sunyani, Konongo, Prestea, Bibiani, Yedji, Salaga, Dumbai, Bomboy, Berekoum, Sampa, des fleuves Bia, Tano, Anoum, Birim, Afram, du mont Afadjato, du lac Volta, le plus grand lac artificiel du monde. Je sais également que Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, est né à Kumasi, comme moi. Que cette ville est l'ancienne capitale de l'Empire Ashanti, royaume du peuple Akan, qui prospéra au XVIIe siècle grâce au commerce de l'or et de la noix de cola. Avec les états voisins du Dahomey, d'Oyo, du Bénin, du Songhaï, avant l'arrivée des Européens, et l'installation des premiers comptoirs négriers, notamment portugais à Elmina. Je sais qu'on appelle Kumasi la ville-jardin, en raison de ses nombreuses espèces de plantes et de fleurs, dont je connais pas l'odeur. Je n'ai fait l'apprentissage de mon pays qu'à travers l'écran d'un vieil ordinateur dans le petit appartement de Roufac où on était installé avec papa. Mon enfance fut pleine de contes alsaciens, de cigognes livrant des bébés, de la légende de Sainte-Odile, mais rien sur les serpents d'Ougadou ou les statuettes d'Aquaba. Je connais les recoins de la petite gare de Roufac par cœur, de Notre-Dame de l'Ascension, de l'ancienne Halle au Blé, mais rien de la cathédrale Wesley ou les marchés de Kégésia. Je dis régulièrement « Vigens, Xuntait, Kopftami ». Je prends des schlouks, je fais des schmutz, je mange des stucs, mais je sais pas parler lacan, le dagaré, le dagban, les wé, le ga, le konja, le kassem, le dzema. Et pourtant, j'ai toujours l'impression d'être l'étrangère à Roufac. Normal, moi c'est pas une tigone qui m'a livré, mais un Boeing 757-200 de la compagnie Ghana Airways. Alors, oui, j'ai failli crever de grandir ici. Et même si je me représente la violence que ça doit être pour lui d'entendre ça, je le dis quand même. À chacun sa violence. À chacun sa survie. Et il n'est pas en reste. Ma mère adoptive, sa femme, est morte pendant la procédure d'adoption. C'est incroyable, hein, parfois comme le sort s'acharne. Pendant presque 2 ans, ils essayèrent par tous les moyens d'avoir un enfant. Quand les premiers examens révélèrent la stérilité de mon père, elle le demanda en mariage pour ne pas qu'il s'effondre. Ils sont venus à l'orphelinat de Koumassi, 4 ans après le montage de leur dossier pour une première rencontre. Ils devaient revenir 18 mois plus tard, mais un matin de l'entre-deux, elle s'est effondrée. Rupture d'anévrisme. Il est quand même venu me chercher. A poursuivi les démarches, m'a élevé seule, sans jamais céder au chagrin immense qui parfois le submergeait. Plus tard, il m'a dit qu'un peu d'elle survivait en moi, mais il s'est pas attardé. Il s'est jeté dans son aventure du loto, ses grands discours sur le hasard et la destinée. Il a fait comme il a pu. Mon père est un héros. Un héros fatigué. Et je veux le filmer pour que tout le monde sache que son manège enchanté abrite une tragédie. Qu'en réalité, vous n'êtes pas là pour gagner des lots, mais franchir avec lui une étape supplémentaire dans son processus de guérison.
Le monologue que vous venez d'entendre est dit par Clémence Boissé, comédienne qui joue dans l'Auto, spectacle que nous devions aussi présenter au mois de novembre. Confrontée à des pertes réelles ou symboliques, les personnages de la fille et de son père trouvent dans leur pratique artistique le moyen de conjurer la mort. La fille cinéaste filme son père avant d'être certaine de le quitter pour toujours. Lui tente de sortir du deuil de sa femme en imaginant un spectacle sur le hasard et les mauvais coups du sort. L'art crée des mondes parallèles, et dans ces mondes, on peut réparer. On peut dire les phrases qu'on aurait dû prononcer plus tôt. On peut même opérer des résurrections, fragiles et éphémères, certes, mais qui peuvent apporter quelques réponses aux questions qui nous hantent. Je pense au texte d'une jeune amie, rencontrée alors que je cherchais quelqu'un pour s'occuper de mes enfants lors des représentations parisiennes de La Truite, autre pièce de Baptiste que j'ai montée. Je ne pensais pas, au moment de caler les horaires de garde au téléphone avec cette personne que je ne connaissais pas, rencontrer une autrice si talentueuse, dont le premier texte, écrit à 18 ans, et que j'ai pu obtenir à force de supplications, allait me marquer si profondément. Dans Te reposer, Azélie Stano se sert de la fiction pour transpercer le mur qui sépare les vivants et les morts, pour s'adresser à une adolescente disparue trop tôt. Au début, les mots semblent s'accumuler vainement, en toute perte. Ils servent surtout à dire que plus rien ne pourra advenir de bon. Commencer un deuil, c'est d'abord refuser de le faire. Et puis, doucement, on accepte de remonter dans le train de la vie. Lorsque j'ai demandé à Azélis d'enregistrer depuis la Norvège un petit extrait pour vous, elle m'a dit qu'elle avait écrit cet état d'apaisement avant de le vivre réellement, et que c'est le texte, finalement, qui avait tracé pour elle un retour à la lumière.
Te parler, il faut que ça m'aide à vivre. Faire mon petit monologue, créer un maigre cortège de mots derrière moi, comme autant de petits cailloux traçant le chemin accompli. Des mots comme des bombes qui explosent pour mieux retrouver le calme. Des mots qui nomment pour y voir plus clair dans les contrées sombres de l'inexprimable. Il faut que ça aide à vivre. Et pauvrement. Et pas que moi. Il faudrait aussi, le plus qu'il est possible, que ça t'aide à vivre toi. Toi derrière le mur, qui ne nous dit plus rien. Qu'on tremble d'oublier, même juste un petit peu. Qu'on a parfois l'impression d'avoir seulement rêvé. Il faut que cela te ressuscite un peu. Pauvrement, certes, mais un peu. C'est ce sens que je veux lui donner, à ce cortège de mots derrière moi, de peur d'avoir trop dit. Cortège funèbre en apparence, mais dirigé tout droit vers ta résurrection. Vie. Vie, c'est tout ce que je veux pour toi. Après t'avoir mille fois perdu, par les mots, te retrouver. Et de cette tristesse, de cette douleur, de l'invasion en moi de ténèbres armées de couteaux qui scient, de cette colère, aussi, j'aperçois une lumière. La blancheur de la page vide, plus blanche encore que ta peau. Et je m'y enveloppe, je m'y plonge tout à fait, et il me semble que cela ressemble à une étreinte. La possibilité de tous ces moments lasse, oui, la promesse de la page blanche me calme, comme la découverte d'une île. Et lorsque je la fixe, lorsque je me confronte au vide, il se passe une chose surnaturelle. Je plonge la page blanche dans le bain de ma douleur, comme un photographe plonge sa photographie encore invisible dans le produit qui va la révéler. Et peu à peu se dessine, sur ma page, une image de toi. Se dessinent tes contours, se dessinent tes cheveux, se dessine ton nez. Progressivement, ton image envahit la page comme elle étouffe mon cœur. Elle imbibe la page du même charme que celui duquel tu m'as envoûté. Et ça y est. De plus en plus clairement, tu apparais. Une image de toi, celle que j'ai choisi de montrer, émerge. Et tous les invités placés en rang d'honneur commencent eux aussi à t'apercevoir. Ils ne te verront jamais que d'ici. Un peu de biais, de profil, de la place où ils sont, de leur propre perspective. Jamais ils ne pourront faire le tour de toi. Jamais ils ne pourront sentir le caractère massif de ta silhouette, ni le bruit de tes pas. Ils ne pourront jamais faire la délicieuse expérience de t'entendre parler, ni le bonheur d'apprendre à te connaître par eux-mêmes. À mon plus grand regret, jamais ils ne nous verront côte à côte. Jamais nos yeux plongés dans ceux de l'autre. Jamais l'inexplicable entente ni l'impression d'avoir en face deux corps pour une seule âme. De même qu'ils ne peuvent voir que la partie de moi qui subsiste, ils peuvent apercevoir la partie de toi que je tente de recréer. Et tu émerges. Tu recommences ta marche. On te regarde tous. On t'aime. Je t'aime. Marche et ne t'arrête jamais.
J'imagine qu'en entendant ce portrait s'incarner par le pouvoir surnaturel des mots, nous tentons ensemble de saisir les contours de cette jeune femme que l'on aimerait connaître. Mais forcément, d'autres êtres chers qui manquent apparaissent aussi pour chacun. L'une des personnes que j'aimerais convoquer avec netteté dans l'imaginaire de tous si j'avais la même puissance d'écriture, c'est la merveilleuse chanteuse et actrice Paulette Wright, que les Rémois connaissaient bien. Je n'ai pas ce pouvoir. D'autres le feront mieux que moi. Mais je souhaite qu'elle trouve une place. Je ne sais pas comment dire. Là. Ici. Maintenant. Il y a quelques jours, je suis retombé sur l'enregistrement de Fortune d'un petit concert que Suzanne Aubert, comédienne que j'aime énormément, avait donné avec son équipe au bar de la Comédie. En marge d'un spectacle qu'elle avait écrit et mis en scène avec Paulette et d'autres actrices, Suzanne avait répété des chansons dont elle avait écrit les paroles et que Paulette avait mis en musique. Ce concert est un des moments les plus émouvants que j'ai pu vivre à la Comédie. La voix de Paulette guidait celle des quatre actrices qui chantaient à ses côtés. Elle montrait le chemin, sans jamais se mettre au premier plan, partageant délicatement sa force pour arriver à transmettre une des choses qu'elle arrivait par je ne sais quel miracle à nous faire ressentir, la sensation d'harmonie.
Toujours, si on est contre ou pour la colère et la rage, est-ce que tu vois l'image? Moi je veux m'apaiser, trouver ce qu'il faut, trouver ce qu'il faut, refuser, accepter. envisager l'option incomprise. Se laisser prendre par la surprise, d'envisager l'option incomprise. La vie n'est pas un escalator, tu crois savoir te tourner, tu as tort. Rien ne monte fuit de la naissance à la mort. Escale à tous les escaliers, escale à tous les escaliers, escale à tous les escaliers, escale à tous les escaliers. Ah, je me suis cassé le nez contre la marche, celle que j'ai loupée. Je me suis explosé la gueule, et voilà que je me sens toute seule. Aussi faut dire qu'on ne m'a pas aidée à accepter, refuser, accepter, refuser. Se laisser prendre par la surprise, de s'éloigner du bonheur que l'on vise. Se laisser prendre par la surprise, de s'éloigner du bonheur que l'on vise. La vie n'est pas un escalator, ce qu'elle invente claque toujours plus fort. Rien ne monte fuit de la naissance à la mort. Escale à tous les escaliers, escale à tous les escaliers, escale à tous les escaliers, escale à tous les escaliers. Accepter de descendre, refuser de monter. Accepter de monter, refuser de descendre. Non, la vie n'est pas un escalator. 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 Je tente l'appui contre la main courante. Ne pas lâcher la main courante, ne pas lâcher la main courante. Mais là, je suis toujours plus lente. Je suis toute déséquilibrée. Étirée entre mes bras et mes pieds, je m'accroche à ce qui me rassure. Mais le reste de mon corps, ne pas lâcher la main courante, ne pas lâcher la main courante, ne pas lâcher la main courante.
Je voudrais, comme toi, admettre simplement la vie et la mort comme deux espaces séparés. Mais je n'y arrive pas. Je ne sais même plus parfois si tu es toi vivante et moi morte. Le monde est renversé, comme une boule qu'on retourne pour faire tomber la neige. Autour de moi, il n'y a plus que les particules en suspension d'une réalité en miettes. J'ai beau tendre les bras pour rassembler les morceaux, tout file entre mes doigts. Et je comprends que la vérité n'est plus ce bloc où se cristallisaient nos certitudes, nos colères et nos convictions, mais une poudre d'étoiles, inconstante et volatile, dont je parviens à peine à distinguer le mouvement. Il n'y a pas deux mondes bien distincts, ce n'est pas vrai. Comme il n'y a pas le ciel et la terre, mais la mémoire du ciel et de la terre qui à chaque seconde se recompose en nous. Ne me parle pas comme à une enfant. Je ne suis plus une enfant. Je ne suis plus une enfant et je n'accepte pas la mort. Tu comprends l'ampleur du truc ? Je n'accepte pas ta mort. Je n'accepte pas ton absence. Putain ! Je voudrais être capable d'accepter ton absence, tu sais. Je voudrais tellement. Et parfois, le matin, mes yeux s'ouvrent et pendant 5 minutes, j'ai l'impression d'y être parvenue. Je fixe le plafond immaculé, comme une toile vierge, prête à l'emploi. Et rapidement, dans les coins, apparaissent des segments noirs qui avancent en s'entortillant comme une couvée d'aspic. Par centaines, ils progressent sur la surface du tableau, l'obscurcissent, l'enserrent, le colonise tout à fait, et bientôt je ne peux plus respirer. Je sais que l'enfer recommence et je veux me battre. Mais au coin de mes yeux, il n'y a plus qu'armes inaptes, torrents d'impuissance, eau tiède et malheur. Je ne sais plus comment faire.
J'ai demandé à Pauline Peyrade, autrice de théâtre qui partage une amitié artistique réciproque avec Baptiste et qui est aujourd'hui ma partenaire de confinement, de lire cet extrait de la première version de Top étreinte, projet de comédie musicale que nous avons en commun avec Baptiste, dans laquelle Paulette aurait certainement joué si elle était encore là. C'est la voix de Pauline qui va clore cette petite capsule sonore avec la réponse qui suit cette déclaration d'impuissance dans Top étreinte.
Tu n'as rien à faire, vraiment. Tu n'as même pas de décision à prendre. Juste lâcher ma main. Lâche juste ma main. C'est presque rien. Permet au silence d'être autre chose que du manque.